Bonjour Tiphaine, aujourd'hui nous passons un dernier moment en compagnie du poète surréaliste André Breton.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il n'aimait pas qu'on l'appelle le pape du surréalisme et pourtant il l'était bien, ce maître parfois ombrageux d'un courant dont il excommuniait régulièrement les membres, cet inventeur d'un art révolutionnaire qui prétendait offrir une nouvelle vision du monde. Cet homme, c'est André Breton, mort en 1966 à l'âge de 70 ans. Après une vie où l'art, l'amour et la liberté ont pris la plus grande des places, comme nous l'avons vu lundi au cours de notre émission biographique, c'était avec Henri Béard. Ce grand courant de pensée et d'art qu'a été le surréalisme, Breton l'a animé et régénéré à divers moments pour lui permettre de faire son chemin le plus loin possible tout au long du XXe siècle, sans comprendre parfois d'autres mouvements comme le nouveau roman par exemple. Le surréalisme, c'était le sujet de notre émission de mardi. Enfin hier, c'est des écrits sur l'art de Breton dont il a été question avec Étienne Alain Hubert. Il les a édités, dans la Pléiade. Et aujourd'hui ?
L'amour, l'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine.
L'amour. Aujourd'hui, pour une émission autour du livre d'André Breton, Nadja, nous serons en seconde partie avec Serge Filippini, qui en a en quelque sorte écrit une variation romanesque dans « J'aimerais André Breton » paru il y a quelques mois aux éditions Phébus. Et en première partie, nous sommes avec vous, Christiane Lacote-Détriba, bonjour. Vous
Bonjour.
Êtes psychanalyste et vous avez fait une lecture psychanalytique de Nadja dans un essai que vous avez intitulé « Passage par Nadja » publié en 2015 aux éditions Galilée. Alors il faut d'abord dire que Nadja, ça n'est pas un roman, mais c'est une histoire vraie, une histoire vécue au plus profond de lui-même par André Breton.
Oui et non. C'est un roman, enfin, c'est le seul écrit narratif de Breton. Le reste, ce sont des poèmes, des manifestes, des études. Donc ça mérite d'être situé. Mais c'est une œuvre aussi de fiction. Nadja, il y a un support qui est une rencontre réelle, une rencontre qui a été passionnée et dramatique. Et Breton, par rapport à l'issue dramatique de cette rencontre, a fait quelque chose comme rendre les honneurs à la femme Nadja. Breton avait quelques notions de psychiatrie.
Il était médecin, il faut le rappeler. Il a exercé, si l'on peut dire, en hôpital psychiatrique.
Voilà, pas longtemps. Hein. Mais il savait, dès le départ, la fragilité de Nadja. Mais il a été surpris par la tournure que cela a pris. Il n'est pas coupable, comme disent les polémiques. Il est peut-être un peu responsable, faisant cette distinction-là.
Responsable, il faut le dire d'emblée, du fait que Nadja va sombrer.
Va sombrer.
Elle était déjà vraisemblablement un petit peu folle.
Fragile,
disons.
Fragile. Oui, c'était une femme qui avait ses habitudes de courtisane, de figurante, un peu d'actrice, qui lisait, c'est important, le texte des autres, qui n'avait peut-être pas son propre
Pourquoi
texte.
Pourquoi c'est important?
C'est la fascination qu'exerçait sur elle Breton, qui lui donnait d'ailleurs dangereusement ses livres à lire, en particulier Poisson soluble, qui n'est pas une lecture anodine.
Alors pourquoi dangereusement ?
Dangereusement, c'est un peu ce que j'explique dans le livre. Hein. C'est-à-dire que il ne s'agit pas du tout de faire une psychanalyse de Breton ou de Nadja ou de leur rencontre, etc. Je pense que le psychanalyste a beaucoup à apprendre de l'œuvre littéraire des artistes. Ils sont toujours en avance, comme disait Lacan. D'ailleurs, Freud aussi, avec Jensen, Gradiva, étudiait et trouvait, grâce à ce qu'il y a d'invention, de nouveaux sens dans la poésie ou dans l'écriture.
Mmh. Précisément, le rapport du surréalisme avec la psychanalyse est très présent. Je vous propose d'écouter dès maintenant ce que André Breton disait de ses rapports avec la psychanalyse.
Alors, est-ce que vous pensez que les formules du surréalisme que vous avez appliquées à l'époque pouvaient avoir une parenté avec les découvertes de la psychanalyse ?
Elles avaient certainement cette parenté, car elles procédaient d'une sorte de monologue que Freud préconisait comme moyen d'investigation du psychique de ses patients. Il s'agissait pour nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas assujettis à une volonté de traitement psychanalytique, de retrouver justement le fil de ces relations verbales, n'est-ce pas, à travers cette sorte de dictée à laquelle nous voulions parvenir.
Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là que vous avez fait connaître l'écriture automatique, par
oui,
exemple ?
C'est oui, c'est cela. Alors ceci, par conséquent, précédait de 5 années la définition que j'ai citée tout à l'heure. Nous avions donc, Soupault et moi, rempli un certain nombre de cahiers d'écriture non surveillée, en nous interdisant scrupuleusement de nous relire ni d'apprécier en cours de route le produit de cette activité.
Un entretien avec Judith Jasmin à Radio-Canada, c'était en 1952, Christiane Lacote des Tribas. Surréalisme et psychanalyse sont donc très liés, et cela finalement dès le début du surréalisme.
Je vous dirai encore une fois, oui et non. Hein ? Le circuit qui m'a intéressée, c'est le malentendu entre Freud et Breton, la lecture de Lacan des œuvres surréalistes, et ce que nous, je suis lacanienne, ce que nous, psychanalystes, pouvons écouter à la lumière des œuvres plastiques et des œuvres poétiques surréalistes.
Mais du côté du oui, j'ai envie d'insister oui, quand même là-dessus. Il y a tout de même l'idée que l'écriture automatique, c'est précisément, enfin pas seulement ça, mais c'est le surgissement quand même de l'inconscient.
Absolument, et un surgissement qui peut être vécu comme dangereux. C'est un petit peu le témoignage de Breton et de Soupault dans les champs magnétiques qui précèdent le récit de Nadja, où ils ont senti le risque de, dirons-nous, dépersonnalisation, d'angoisse, de dépression, de faire surgir ce que Victor Hugo appelait la bouche d'ombre, ce qui n'est pas rien. Mais justement, ce qui est intéressant avec l'acuité clinique de Breton, c'est qu'il a distingué différentes sortes de dangers. C'est-à-dire que le danger qu'ils ont éprouvé, Soupault et lui, finalement, ils en sont revenus. Tandis que Nadja n'en est pas revenue.
Alors revenons précisément à Nadja, qui a donc été ce modèle, cette égérie, ou cette occasion simplement d'un récit pour André Breton. Il faut raconter comment ils se sont rencontrés. Ça se passe le 4 octobre 1926. Tout est très très précis et très très documenté par André Breton. Ça se passe rue Lafayette à Paris, et donc ils vont se voir pendant seulement 9 jours. 9 jours qui vont être marqués par, d'un côté, la passion totale de la part de Nadja envers Breton, et de l'autre côté, une certaine réserve, disons, de la part de Breton.
Et même un agacement. Je crois qu'il avait fait tout de suite le diagnostic de la fragilité de Nadja, et ce que je dis dans le livre « Passage par Nadja », sur la rencontre même où elle apparaît rue Lafayette, frêle, avec ce regard étonnant, un regard qui ne regarde pas. Mmh. Des yeux, surtout, il insiste sur les yeux, montre que il savait déjà que il y avait quelque chose de fragile.
Et que va-t-il chercher alors, s'il sait que... Alors il dit très clairement qu'il n'aime pas, il n'est pas amoureux de Nadja.
Et je crois qu'il faut le croire. Mmh. Il faut le croire.
Mais alors que va-t-il chercher dans cette relation?
Il va chercher quelque chose de la relation entre le mot et quelque chose d'impossible dans la suite des mots de Nadja. Il va chercher la racine de ce qu'il appelle la trouvaille, ce que nous appelons le jeu de mots, la métaphore. Il va chercher ce qu'il y a. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui vient de Poisson soluble. Il vient chercher cette région, dit-il, plus délicate que l'impossibilité de se poser pour certaines hirondelles. Ça, c'est formidable. C'est beaucoup mieux que n'importe quel diagnostic issu du DSM, je ne sais plus quel est le numéro maintenant, mais c'est là que la psychanalyse apprend du poète.
Mais alors, est-ce qu'il utilise Nadja comme un matériau? Et
c'est ce qu'on lui a reproché.
On pourrait lui reprocher, en effet.
C'est ce qu'on lui a reproché, mais elle aussi se servait du canevas du texte de Breton, d'une manière assez folle, dirons-nous un peu psychotique, c'est-à-dire chaque fois en cherchant dans un texte l'héroïne à laquelle elle pouvait s'identifier.
Le 4 octobre dernier, à la fin d'un de ces après-midi tout à fait désœuvrés et très mornes, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme, très pauvrement vêtue, qui elle aussi me voit ou m'a vue. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage, curieusement fardé, comme quelqu'un qui, ayant commencé par les yeux, n'a pas eu le temps de finir. Sans hésitation, j'adresse la parole à l'inconnue, tout en m'attendant, j'en conviens du reste, au pire. Elle sourit, mais très mystérieusement, et dirais-je, comme en connaissance de cause, bien qu'alors je n'en puisse rien croire. Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ses yeux? Que s'y mirent-ils à la fois obscurément de détresse et lumineusement d'orgueil?
De Nadja par Garance Mazelier. Alors si vous le voulez bien, Christiane Lacote des Tribas, on va raconter un petit peu les 9 jours de cette rencontre et puis je vais vous laisser commenter quand vous le souhaitez chacune de ces journées. Donc ça commence le 4 octobre, rue Lafayette, Breton croise cette jeune femme qui est pauvrement vêtue, dont les yeux le frappent et à qui il adresse la parole pour s'entendre dire alors qu'elle vient de Lille. Qu'elle a des difficultés d'argent, c'est une jeune fille qui a une histoire difficile, Christiane Lacote des Tribas, pour commencer.
Oui, elle avait eu une fille qu'elle a laissée à sa mère pour aller à Paris, tenter sa chance de quelque manière que ce soit.
Alors elle rencontre là des amants qui sont plus âgés.
Des amants, dirons-nous, des protecteurs.
Des protecteurs. Il se revoit donc le lendemain. Là, Breton remarque son goût pour la poésie. Finalement, c'est ça qui l'intéresse en particulier. Le surlendemain, elle est un petit peu distante, mais ils vont quand même se promener du côté de la place Dauphine. Là, Breton raconte qu'elle est de plus en plus exaltée. Alors le 7, ils n'ont pas de rendez-vous, mais Breton comprend qu'il lui manque. Donc il y a toujours cette espèce d'aller et de retour, entre une espèce d'attirance quand même, et puis un agacement, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui, ce qui motivait sans doute l'agacement de Breton, c'était qu'en particulier par rapport à la promenade près de la place Dauphine, tous les monuments faisaient, j'allais dire, comme des signaux.
Tout fait signal, voilà. De toute façon, dans cette histoire, comme par exemple, le lendemain encore, quand elle l'embrasse, c'est là où il dit qu'il a embrassé ses très jolies dents, et il compare ses dents à des hosties. Eh bien, le jour d'après, Breton ouvre une lettre d'Aragon qui contient la reproduction d'un tableau d'Uccello qui s'intitule justement « La profanation de l'hostie ». Donc c'est encore un signe, et tout fonctionne comme cela.
Oui, ça fonctionne comme cela dans leur dialogue, mais jamais Breton n'adhère à cette relation du mot comme signal d'une chose ou comme signal d'un arrière-monde.
Mmh. Hein? Pourquoi n'y adhère-t-il pas à ces signaux?
Mais parce qu'il faut aussi quitter cette idée que le surréalisme est quelque chose qui suscite uniquement l'imagination, que c'est lié, que ce soit lié à l'inquiétante étrangeté avec des vertiges de jouissances diverses. En réalité, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai écrit ça, c'est que Breton, c'est quelqu'un qui décape la logique de l'articulation entre les mots. Mmh. Il questionne même toute l'identité, c'est-à-dire il y a un mot qui est très intéressant, c'est le mot demande sa chose et et ça l'impatiente beaucoup, c'est-à-dire il rompt avec l'adéquation rei et intellectus, hein, et fait apparaître quelque chose qui est autre chose que la vérité, l'exigence de vérité, mais quelque chose qui va toucher au réel et pas au vertige enthousiaste, exalté seulement.
Alors quand vous parlez de réel, il faut peut-être s'arrêter sur ce mot de réel, justement. Oui. Le réel, la réalité, ça n'est pas la même chose. Et là, c'est en lacanienne que vous expliquez ça dans votre livre. Où se cache le réel? Où est la réalité dans Nadja?
La réalité, c'est quelque chose comme l'organisation du monde. La psychanalyse dit que c'est le fantasme qui organise la réalité comme monde. Le réel, c'est quelque chose contre quoi on bute. C'est quelque chose qui est à la naissance de significations nouvelles. Dans une cure psychanalytique, nous essayons de faire avec la parole, nous n'avons que cela, notre attention bienveillante, bien sûr, mais nous n'avons que les mots, et l'articulation difficile entre les mots qui font métaphore ou pas. Mmh. Et c'est la poésie qui nous enseigne que il y a un sens nouveau qui peut surgir. Et c'est ce que nous essayons de faire dans une cure.
Est-ce que la réalité, c'est Léona Delcourt? On n'a pas dit que Nadja s'appelait en réalité comme cela. Oui. Et le réel, c'est Nadja. C'est finalement dans cet interstice-là que ça se joue.
En tout cas, c'est comme ça que se joue la narration de Breton. C'est-à-dire que la réalité, on ne sait pas quelle est la réalité de Nadja. Hein? Nous ne la connaissons que par ses lettres et par ce qu'en dit André Breton. Mais la narration, et c'est là la force de la fiction, la narration nous fait pénétrer jusqu'à ce qui est la réussite poétique de Breton et, hélas, l'échec poétique de Nadja, même s'il y a des éléments dans ses lettres qui sont assez poétiques.
Alors, terminons de raconter l'histoire. Le 10 octobre, ils vont au restaurant, elle fascine beaucoup le serveur, il est tellement fasciné qu'il fait tomber des assiettes. Breton découvre en elle une sorte de pouvoir magique. Et puis le 11, il commence à se déprendre réellement d'elle. Le 12, malgré de nouvelles facettes qu'il découvre en elle, notamment son goût pour le dessin, pour la mythologie, il dit « J'ai de plus en plus de mal à suivre son soliloque, que de longs silences commencent à me rendre intraduisible. » Il se voit une dernière fois le 13 Et là, c'est qu'il ne sait plus tellement ce qu'il faut faire avec cette jeune fille, donc avec sa femme qui est au courant de toute l'histoire. Ils vont vendre un tableau, lui donner l'argent, et puis ils ne se verront plus jamais. C'est cela, Christiane Lacote des Tribas, la fin de l'histoire finalement entre eux.
Ce que j'essaie de montrer, c'est un passage auquel vous n'avez pas fait allusion, c'est le passage des Tuileries. Mmh. Qui me semble
qui est la source d'un malentendu aussi.
Important.
Alors racontez-nous justement ce passage avec la fontaine.
Ils sont le soir dans ce beau jardin avec des jets d'eau et il y a beaucoup de silence, peu de paroles. Et Nadja lui parle de ce jet d'eau où les eaux redescendent dans la vasque. Et Breton lui dit alors quelque chose qui est tout à fait dangereux. Lui dit « Oh, comme c'est étonnant, Nadja, quelle prescience je suis en train de lire Hylas et Philonos de Berkeley avec cette histoire de fontaine et de jet d'eau. Mm-hmm. » Voilà. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il la conforte là dans une sorte d'union, de prescience, elle serait une devineresse, alors que lui, lisant Berkeley, lit des passages sur ce que c'est que l'identité, l'impossibilité de penser l'identité, la façon dont les mots surgissent et se déploient et retombent dans la vasque du sens commun, c'est-à-dire qu'il y a toute une exigence philosophique chez Breton qui déconstruit, si j'ose ce terme, l'identité, et tandis que Nadja, c'est l'image du jet d'eau qui d'ailleurs, je le disais au passage, n'est pas du tout une image phallique pour elle, c'est simplement une image de fusion dans laquelle elle espère retrouver Breton.
D'espoir mettez-vous dans l'amour? Comment envisagez-vous le passage de l'idée d'amour au fait d'aimer? Feriez-vous à l'amour le sacrifice de votre liberté? L'avez-vous fait? Vous reconnaîtriez-vous le droit de vous priver quelque temps de la présence de l'être que vous aimez, sachant à quel point l'absence est exaltante pour l'amour, mais apercevant la médiocrité d'un tel calcul? Croyez-vous à la victoire de l'amour admirable sur la vie sordide? Ou de la vie sordide sur l'amour admirable.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire
la compagnie
des mots
des auteurs sur France Culture, et nous parlons de André Breton et en particulier de son livre Nadja avec vous, Christiane Lacote des Tribas. Alors on sait que l'amour, évidemment, c'était au cœur non seulement de la vie mais aussi de la pensée surréaliste de Breton. Quelle serait selon vous la vision de l'amour qu'on pourrait inférer à la lecture de Nadja, la vision de l'amour de Breton? C'est une question difficile, j'en ai conscience.
Non, c'est une question très importante. Lacan disait que vraiment ça l'agaçait beaucoup, cette mythification de l'amour dans le surréalisme.
Pourquoi ?
À cause de ce qu'il appelle l'impossibilité d'inscrire la relation entre un homme et une femme. j'ai lu le livre de Nadja en lacanienne aussi. Et en apprenant beaucoup plus que ce que les psychanalystes peuvent en dire. C'est-à-dire que le malentendu dont nous parlions là tout à l'heure à propos de Berkeley, le jardin des Tuileries, etc. Le malentendu dans l'amour existe toujours. Là, il est radical et mène à la folie, mais ce serait vraiment simpliste de dire que Nadja est devenue folle parce qu'elle a été abandonnée. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que il est allé si loin dans l'arbitraire du signe, dans l'arbitraire du mot et dans l'arbitraire du lien, de la connexion entre les mots, lecteur de Berkeley, Breton. Hein, il est allé si loin que c'est ça qui l'a détruite.
Vous pensez que on peut, en utilisant justement Lacan, qui a beaucoup parlé d'amour, c'est peut-être difficile de rentrer trop précisément dans la pensée de Lacan, mais enfin quand même il y a un certain nombre de phrases qu'on connaît de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel par exemple. On peut utiliser Lacan pour comprendre Nadja et alors pour comprendre l'amour chez Nadja
ou inversement, on apprend de Nadja pour comprendre Lacan.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre alors?
Écoutez, Nadja, le livre de Breton, c'est 1928. La thèse de Lacan sur le cas aimé, c'est 1932. Et c'est là que Lacan, avec aussi le traité d'Éluard sur poésie volontaire et poésie involontaire, se met à penser ce que c'est qu'une métaphore. Il n'y a pas seulement Jacobson, les linguistes, mais il y a la poésie, et la poésie chez les fous, chez les délirants.
Breton méprisait la psychiatrie. Son récit, le professeur Claude de l'hôpital Sainte-Anne en prend même un peu pour son grade.
Tout à fait.
Et en même temps, il est rattrapé finalement par la psychiatrie, et notamment dans cette histoire, puisque en 1927, Nadja va être transférée de Sainte-Anne à l'asile de Perret-Vaucluse, puis en mai 1928 à l'asile de Bailleul, c'est dans le Nord. Elle va y mourir le 15 janvier 1941. Breton ne l'aura jamais revue. Quand est-ce qu'il apprendra cette mort et qu'est-ce que ça va produire sur lui? De la culpabilité, on imagine?
Je ne me souviens plus. Mais il a été très bouleversé par la dégradation de l'état de Nadja. Il faut dire aussi qu'il lui a donné de l'argent à diverses reprises.
Il ne l'a pas abandonné totalement.
Pas totalement.
Pourquoi faut-il lire encore Nadja aujourd'hui, selon vous, Christiane Lacote des Tribas?
Écoutez, pour ce que Breton dit sur le mot, dans son arbitraire rapport avec les autres mots, plus qu'avec la chose, pour sa critique d'une réalité totalisée dans un monde, pour ce qu'il dit de l'amour. Je vois que vous avez l'amour fou avec ce passage où l'amour est très exalté, mais quelquefois tout d'un coup il tombe sans aucune raison et on ne sait pas pourquoi il reprend ou il ne reprend pas. Ça c'est tout à fait intéressant. Pour ce qu'il dit du délire, pour ce qu'il dit à partir des lettres de Nadja que j'ai eu la chance de pouvoir lire parce que mon mari Paul Destribats avait trouvé le cahier noir que Nadja avait confié à Breton et que Breton ne voulait pas lui rendre.
Donc pour beaucoup de raisons.
Voilà.
On le comprend. Merci beaucoup, Christiane Lacote d'Estriba. Pour aller plus loin, je renvoie donc à votre ouvrage Passage par Nadja. C'est aux éditions Galilée. En seconde partie, nous allons parler avec Serge Filippini de son livre J'aimerais André Breton, mais tout de suite, c'est le moment de la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Jean-Louis Janel.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
« Jean-Louis Janel, professeur de lettres modernes à l'université de Rouen. Bonjour à vous Jean-Louis.
Bonjour.
Alors vous avez souhaité nous parler aujourd'hui du récit L'amour fou de Breton. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que ce texte de 1937 est peut-être le plus hybride de l'œuvre d'André Malraux. Il est moins clairement...
D'André Breton,
pardon.
Vous êtes également spécialiste de Malraux.
Effectivement, ça ressort. Et il est moins clairement théorique ou programmatique que le Manifeste du Surréalisme de 1924, moins nettement narratif ou romanesque que Nadja, dont on vient de parler, en 1928. Mais l'amour fou mêle de manière très particulière son argumentation en faveur de l'amour libre, source d'une beauté nouvelle, un puissant lyrisme qui est mis cette fois-ci au service d'une aventure amoureuse pour une femme qui n'est jamais directement nommée, une femme qui nous est décrite comme scandaleusement belle et qui est rencontrée le 29 mai 1934. Il s'agit de Jacqueline Lamba, mais son nom n'est pas donné. Elle est rencontrée dans des circonstances qui sont prédites, c'est ça qui est fascinant, avec exactitude sous forme d'un poème écrit 11 ans plus tôt, Tournesol, poème qui dérangeait quelque peu André Breton. Il ne savait pas pourquoi, il le découvre en rencontrant cette femme. Alors certes, une telle quête de fusion entre narration et argumentation, c'est l'une des principales tendances de la modernité. Cela va de d'Arebourg, de Huysmans jusqu'à la Nausée de Sartre, en passant par toute la recherche du temps perdu, de Proust par exemple. Mais Breton va plus loin, il libère une partie, cette partie proprement romanesque de l'amour fou, à savoir cette histoire d'amour avec Jacqueline Lamba, de toute sa dimension proprement autobiographique. Alors il ne refuse pas de livrer des détails tout à fait authentiques, dates, lieux, paroles exactes. Tous ces détails comptent pour ce poète de la trouvaille, du hasard objectif, mais bizarrement, ces détails ne livrent aucune intimité, aucune exhibition. L'éloge du cristal qui ouvre le volume traduit parfaitement cette espèce de transparence que vise le poète, qui est hostile au déballer tout exhibitionniste de l'autobiographie, déjà en son temps et plus encore dans le nôtre. Et je cite cette formule très belle, la maison que j'habite, dit Breton, ma vie, ce que j'écris, je rêve que cela apparaisse de loin, comme apparaissent de près ces cubes de sel j'aime.
Alors il faut dire peut-être aussi que cette quête de beauté convulsive chez Breton, elle passe avant tout par des objets, comme par exemple le masque de métal qui ressemble à un loup de velours, et la grande cuillère en bois qui évoque la pantoufle de verre découverte au marché aux puces.
Au marché aux puces avec Giacometti, effectivement. Alors c'est vrai, mais Breton n'hésite pas à mentionner également des événements qui sont plus anecdotiques, plus personnels, en particulier dans l'avant-dernier chapitre de L'amour fou, où après toutes les merveilles de la rencontre amoureuse, puis les débordements du désir charnel, dont il parle de façon assez frontale, même si ce n'est jamais provoquant, est traité un aspect qui est plus inattendu pour un poète de l'amour. Il s'agit de ce qu'il appelle les méfaits de la discorde, la dispute, en quelque sorte. Et là encore, l'intime se trouve neutralisé, cette fois-ci par le recours au mythe. C'est la blessure que la déesse Vénus s'est vue infligée par un simple mortel, Diomède, au début de ce chapitre, ou par la référence à la maison du pendu, ce très beau tableau de Cézanne où Breton décèle un halo inquiétant dans cette maison, mais aussi et surtout par le biais d'un fait divers, un pur, simple fait divers. Car nous ne connaîtrons aucun des motifs intimes de cette dispute qui nous est racontée, qui est survenue avec sa femme, donc lors d'une promenade, un après-midi, le 20 juillet 1936, la date nous est donnée, au fort bloqué près de l'Orient. Mais, rendant compte le soir à ses parents de son après-midi, Breton apprend que tous deux, avec son épouse, donc, s'étaient trouvés à proximité de la Villa du Loc, théâtre en mai 1934, donc deux années plus tôt, du meurtre par Michel Henriot de son épouse, à coups de tisonnier puis de carabine, pour l'achever. Michel Henriot était le fils du procureur de la République de Henriot, de sinistre mémoire, puisque on le surnommait le procureur Maximum. Et il avait rencontré cette fille de riche cultivateur, à demi infirme, par annonce, petite annonce, dans un journal. Et détail sinistre qui nous est rappelé par Breton, le jeune homme de 24 ans avait, je cite Breton, à peu de temps de là, contracté une assurance à son profit, en cas de décès de sa femme, cette assurance prévoyant formellement le risque d'assassinat.
On n'est jamais trop prudent.
En effet. Et le lendemain même du crime, c'est cela qui est le plus délicieux d'une certaine manière, le procureur Henriot, donc son père, avait demandé par téléphone à la compagnie intéressée de faire procéder aux constatations.
Mais alors qu'est-ce que ce fait divers apporte à la conception que Breton se fait de l'amour précisément ?
Alors il faut le replacer pour le comprendre dans la longue tradition tradition du recours aux faits divers dans la littérature française, tradition très importante depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Bien entendu, les surréalistes se démarquent très très nettement des romanciers réalistes ou naturalistes. Pour eux, c'est la manifestation monstrueuse d'une anomalie sociale ou psychologique qu'il s'agit de jeter à la face des bien-pensants. Comme dans ce recueil collectif à la gloire de la parricide Violette Nozière, qui avait tant agité les consciences à l'époque, qui était surnommée par les surréalistes l'Ange Noir, donc recueil qui avait été publié en décembre 1933. On peut faire un tout petit parallèle très rapide avec le traitement de ce fait divers par Simone de Beauvoir, qui en parle dans La force de l'âge, et qui suffit à marquer la différence. La mémorialiste Simone de Beauvoir goûte particulièrement les affaires qui défrayent avec Sartre, donc qui défrayent la chronique dans les années 1930. Mais pour elle, comme pour les écrivains contemporains de nos jours, Marguerite Duras, Vinaver, Emmanuel Carrère, le fait divers est avant tout un révélateur social, éventuellement un tremplin pour l'écriture romanesque. Breton, lui, ne manque pas, à l'instar de Beauvoir, de stigmatiser la famille bourgeoise, qui est capable, pour des raisons d'intérêt, de mettre, et je cite ici Beauvoir, une idiote à la merci d'une brute qui va l'assassiner. Toutefois, ce meurtre est loin de se limiter à ses yeux à sa dimension simplement sociologique. Comme dans le cas des objets talismans, qui suscitent dans la première partie de L'amour fou, ou dans Nadja, ces objets talismans qui suscitent par un phénomène d'association libre d'étonnantes révélations, cette villa du Locke à côté de laquelle il s'était promené et où s'est produit ce crime existe avant tout comme une sorte de champ de force. À la manière d'un inconscient qui subsisterait dans les lieux en quelque sorte, la violence criminelle de Michel Henriot explique rétrospectivement la dispute, la discorde qui est survenue entre Breton et sa compagne. Le fait divers devient une clé qui permet d'accéder à de nouvelles forces intimes, et c'est ça qui lui importe, qui ont parasité l'amour, le sien, qui l'ont anamorphosé en quelque sorte. Mmh. Dans L'amour fou, l'affaire Henriot n'est plus représentative d'une constante sociale, elle devient le décor flamboyant du seul théâtre qui vaille la peine d'être vécu, d'être représenté pour les surréalistes, c'est celui de ce qu'il appelle les merveilleux précipités du désir, ou son envers funeste, le déchaînement meurtrier dans le cas de Michel Henriot. Seul compte l'amour, celui que Breton promet à sa fille d'ailleurs, de quelques mois à l'époque, Aube, dans une lettre qui clôt le volume sur cette très très belle formule « Je vous souhaite d'être follement aimé ».
On se le souhaite aussi et on le souhaite à nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir éclairé pour nous l'amour fou et on se retrouve bientôt à ce micro, Jean-Louis Janel. À présent en compagnie du romancier Serge Filippini, l'auteur notamment du livre « J'aimerais André Breton » paru en août dernier aux éditions Phébus, un roman où apparaît sous forme de personnage la figure du poète et auteur surréaliste Radovan Ivzic que l'on écoute ici en archive.
Quand je suis venu de la Yougoslavie en France, c'était pour moi la rencontre avec Breton. C'était quelque chose de totalement irréel. Parce que la Yougoslavie a été coupée du monde depuis 1939-40. C'était d'abord l'occupation, après un régime qui a complètement fermé les frontières pour les livres, pour les journaux qui venaient de Paris. Alors, venir de cette Yougoslavie, où je ne savais absolument rien de ce qui s'est passé à Paris, et tout d'un coup, quelques jours après, se trouver dans l'atelier de Breton, qui était, c'était pour moi complètement fabuleux. Il y avait des objets sauvages, des pierres, des cristaux, des livres, des peintures, et ça me semblait totalement irréel.
Bonjour Serge Filippini.
Bonjour.
Alors vous avez reconnu évidemment la voix de Radovan Ivzic, qui est donc un personnage alors de votre roman « J'aimerais André Breton ».
Oui, c'est un personnage historique, mais il est dans le roman. C'est lui qui fait le lien entre André Breton et mon héroïne, Chance, en lui. Parce qu'il, pour replacer le contexte, le début du livre se passe à Saint-Cirq-la-Popie. C'est un petit village qui, à l'époque, n'avait pas une grande importance, un petit village du Lot, et qui est par la suite devenu un des plus beaux villages de France. Et donc,
André Breton avait une maison là-bas, qui allait devenir un des plus beaux villages de
voilà,
France.
Voilà, ça l'était sans doute déjà, mais ce n'était pas visible. Et en fait, André Breton a une maison là-bas et il avait l'habitude de passer ses vacances.
Entouré d'été, de surréalistes.
Comme toujours. Il était toujours entouré de gens. Cette année-là, il y a Philippe Soupeau qui est passé. Et effectivement, il y avait Radovan Ivzic qui était là. Et en fait, lorsque mon héroïne Chance, qui est en pleine détresse, comme Nadja, arrive à Saint-Cirq-la-Popie, elle tombe sur Radovan.
La première personne qu'elle rencontre dans un café.
Voilà, exactement, dans l'hôtel où elle est arrivée là, il faut le préciser, en plantant la pointe d'un compas sur une carte de France. Oui. La pointe du compas est tombée à cet endroit-là, et donc c'est le hasard qui l'a amenée à cet endroit-là. C'est un hasard objectif, si on veut. Elle est en pleine détresse, elle s'est séparée de son compagnon qui l'a violée, etc. Elle est complètement perdue, comme Nadja arrivant à la gare du Nord. Et c'est Radovan qui, lui, a dans la poche la dernière édition, l'édition de poche plus exactement, de Nadja, et qui lui en fait cadeau. Mm-hmm. Et il se trouve que cette héroïne, Chance, a croisé André Breton à Paris.
Et même plusieurs fois, en sortant de l'église Saint-Sulpice.
À Saint-Sulpice.
On va y revenir, mais je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur Radovan Ivzic, parce que c'est quand même un personnage important, qui a eu une vie assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il est arrivé en France?
Il est arrivé en France en tant que réfugié. En fait, Radovan Ivzic, il était traducteur, il était poète, c'était un homme de lettres en Yougoslavie. Et il traduisait Rousseau, je crois, Proust, en croate. C'était vraiment un homme de lettres. Et à cause des circonstances politiques dans lesquelles il était obligé de vivre, il s'était réfugié dans la forêt aux ours, je crois.
Il vivait vraiment au cœur de la forêt.
Il vivait dans une cabane avec sa machine à écrire. Et il faisait des traductions. Enfin, il écrivait certainement aussi ses propres œuvres. Et puis finalement, il est obligé de partir. Et je crois qu'il a été aidé. Il a été aidé pour pouvoir quitter. C'était les pays de l'Est. On se rend pas bien compte aujourd'hui de ce que c'était, mais ça, les rideaux de fer, etc. Et il est arrivé en Suisse par l'intermédiaire d'intellectuels qui étaient en relation avec les milieux surréalistes plutôt. Et il a fini par arriver dans les réunions que André Breton organisait avec ses amis.
C'est ce qu'il racontait. Dans l'archive au début. Ouais, alors André Breton va lui dire, écoutez, vous devriez écrire un livre en lui disant, rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout. Et ce sera donc le titre du livre de Radovan Ivzic, que vous avez lu, évidemment.
Oui, bien sûr, m'en suis même beaucoup servi. Il y a plusieurs versions de la mort d'André Breton, mais c'est la sienne que j'ai utilisée.
Oui, parce que ça se passe l'année de la mort d'André Breton.
Tout à fait,
en 1966.
Oui, c'est l'été, la fin de l'été. 66, donc Breton est chez lui, il est pas en forme, il est malade, il a besoin de médicaments, ça commence à aller assez mal, et il y a Radovan qui est là, et d'autres personnes, et puis arrive cette jeune femme.
Cette nouvelle Nadja,
s'appelle
Chance.
Avec laquelle, d'une certaine façon, il va rejouer un peu sa scène adorée, Breton, qui consiste à séduire une femme sans pratiquement la connaître. Je dis pratiquement parce qu'il l'a quand même croisée une fois où il était avec Maneret, place Saint-Sulpice.
Alors voilà, c'est un peu la scène fondatrice.
Voilà, c'est ça. Elle sortait de l'église, passait avec Man Ray, bras dessus. Man Ray avait son atelier pas loin. Et il la voit et Breton était fasciné par les inconnus qu'il croisait dans la rue, comme il a été fasciné par Nadja elle-même. Et donc, elle sent sur elle le poids de ce regard qui était un regard à la fois fascinant, envoûtant. Mais bon, il ne se passe rien. Elle le reconnaît parce que comme elle vit dans les milieux artistiques à Paris, elle sait qui est cet homme. Bon. Et puis là, évidemment, lorsqu'elle arrive dans le Lot, à Saint-Cirq-la-Popie, et que Radovan lui donne l'exemplaire de Nadja, elle va dans sa chambre et elle écrit avec son stylo sur la page de titre du livre, au-dessus du nom de l'auteur, J'aimerais.
Et ça donne J'aimerais André Breton.
Voilà.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Serge Filippini pour parler de son roman « J'aimerais André Breton ». Alors pourquoi avoir choisi finalement ce grand personnage pour commencer à tisser autour un roman, ce grand personnage ou ces grands personnages même, parce qu'il y a à la fois André Breton et Nadja. C'est cette nouvelle confrontation finalement que vous avez souhaité raconter. Ça vous obsédait ? Qu'avez-vous voulu faire ?
C'est lui qui est venu cogner à ma maison de verre, pour parler comme lui.
Encore un hasard objectif.
Voilà, oui. C'est assez personnel, hein, en fait. Pour moi, André Breton est associé à mon adolescence et à mai 68.
Pourquoi à mai 68 ?
Parce que c'est à cette époque-là que j'ai lu Nadja.
Vous y avez vu une résonance avec les événements ?
Plus qu'une résonance, puisque dans l'hypothèse de mon roman, c'est André Breton qui déclenche le mouvement. c'est lui, il est mort. Oui. Mais c'est son esprit.
C'est là où on traverse un petit peu la ligne entre le réel et le surréel.
Et le surréel, oui.
C'est qu'il arrive, André Breton, à agir par-delà sa mort. C'est peut-être aussi parce que votre personnage de chance sauvage, on n'a pas dit que
c'était
ça.
Oui, c'est ça, oui. Qui finit de façon sauvage. Oui.
Exactement. Ouais. Et ben, ce personnage-là, finalement, rencontre André Breton jusque après sa mort.
Oui, c'est-à-dire qu'elle le rencontre. En fait, c'est une relation qui dure assez peu de temps, puisque c'est un peu la dernière maîtresse d'André Breton.
C'est ça, voilà. Parce qu'il va mourir très
voilà,
vite.
Une semaine plus tard, il est mort.
Avoir fait l'amour avec
Exactement.
Elle.
Exactement.
Enfin, fait l'amour. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour?
Oui, bien sûr. Oui, c'est le dernier rapport sexuel.
Oui, le dernier rapport sexuel.
Voilà, exactement. Ouais.
Parce que finalement, Chance Salvage, elle ne prend pas tellement de plaisir à ce rapport sexuel-là avec André Breton.
C'est-à-dire qu'en fait, Chance, elle vient d'être violée par son compagnon. Elle est montée dans un train à la gare d'Austerlitz. Elle s'est retrouvée là. Elle tombe sur André Breton. Elle couche avec lui.
Et elle couche avec lui. Il l'oblige un petit peu, non ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, elle se retrouve de nouveau dans une situation qui, bien que cette situation, bien que le deuxième protagoniste de la situation soit le grand génie André Breton, eh ben finalement c'est une relation homme-femme des plus pas assez triviale en définitive. Mmh. Et c'est d'autant plus trivial qu'elle, d'une certaine façon, elle est là pour être sauvée, pour être tirée d'affaire.
Donc on n'est jamais sauvé par André Breton, alors
c'est, non,
on est juste enfoncé de nouveau.
Dans les deux cas, on n'est pas sauvé par, euh, par André Breton.
C'est une vengeance finalement que vous avez voulu mettre en scène aussi, non. La vengeance de Nadja, le retour de Nadja des années plus tard, qui vient quand même demander des comptes.
Ah bien, il y a probablement un peu de ça. Nadja et Chance, mon héroïne, ont deux portes de sortie différentes. Nadja, c'est l'asile. Et Chance, Salvage, c'est un peu comme ces femmes du Moyen-Âge, ces mystiques du Moyen-Âge qui choisissaient de quitter le monde des hommes pour vivre une vie mystique en réalité. Mmh. Et qui est une... Alors, André Breton et Chance, sa dernière maîtresse, dans mon hypothèse romanesque, là, sont deux personnages qui sont très révolutionnaires, en fait.
Mm-hmm. Pour quelle raison ?
Ils veulent changer la vie, comme Rimbaud. Mm. Et André Breton a sa façon de vouloir changer la vie, on en a parlé. Et puis elle a une autre façon de changer la vie.
Alors Rimbaud, c'est important pour vous aussi, hein, Serge Filippini.
Oui.
Parce que vous avez écrit récemment sur lui, Rimbaud en Abyssinie, ça s'appelle Rimbaldo.
Rimbaldo, oui.
C'est à la table ronde, hein, c'est paru en 2014, et puis il y a quelques mois aussi dans la collection Libretto, des éditions Phébus. Il y aurait beaucoup à dire sur Breton et Rimbaud, mais on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être expliquer un tout petit peu quand même qu'au départ, c'est une grande référence pour Breton.
Oui.
Et puis, il s'en détache.
Oui, c'est-à-dire que Breton avait une connaissance vraiment intime de linguistique de Rimbaud, puisque il le connaissait.
C'est une des sources du surréalisme.
Voilà, il y a Lautréamont et Rimbaud, en fait. Ouais. En gros, c'est ça. Et quand il y a eu la chasse spirituelle, ce faux manuscrit de Rimbaud qui avait été publié au Mercure de France. Au Café du Flore, un tribunal avait été organisé avec André Breton pour sommer les auteurs de ce pastiche de s'expliquer. Et André Breton n'a pas douté une seule seconde qu'il s'agissait d'un faux, tellement, parce qu'il avait, tellement il connaissait bien son Rimbaud, il était capable de dire au premier coup d'œil si c'était du Rimbaud ou si c'était pas du Rimbaud.
Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, le déçoit un petit peu chez Rimbaud, lui-même mûrissant, changeant, évoluant dans son art, il relit Rimbaud d'une manière un peu différente quand même.
Je ne sais pas. Franchement, pour moi, Breton ne cesse de parler de faire de Rimbaud son vraiment une source d'inspiration considérable. Je ne sais pas s'il s'en est vraiment détaché.
Vous n'iriez pas jusque-là.
Non, j'irai pas jusque-là, non. Mmh. Non.
Vous racontez donc l'enterrement d'André Breton,
oui,
dans votre livre. Est-ce que c'est un enterrement complètement fantasmé ? Il y a évidemment votre héroïne Chance qui n'y était pas et qui du coup s'y trouve. Mais sinon, est-ce que vous vous êtes documenté sur cet enterrement ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le problème du romancier. Vous avez d'un côté le matériel qui est légué par les historiens, par les biographes, et puis votre propre dramaturgie. Et donc, Chance, évidemment, est là. Donc j'ai repris les éléments qui sont très, très connus. La présence de certaines grandes figures. Et puis, mon héroïne, évidemment, qui est là.
Personne ne lui parle trop.
Personne ne lui parle. Et il y a une espèce d'omerta qui s'installe à ce moment-là pour la faire disparaître. Puisque finalement, dans mon idée, qui est une idée romanesque et qui n'a rien à voir avec la vérité historique, c'est que André Breton a eu un dernier amour fou qui a duré très peu de temps. Et puis ensuite, le clan Breton, si je puis dire, a décidé que ce qui me permet à moi de faire vivre de donner une authenticité à mon personnage.
Merci beaucoup, Serge Filippini. Votre livre « J'aimerais André Breton » a donc paru chez Phébus en 2018. C'est votre dernier livre en date, mais il y en a beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer ici. Je remercie de nouveau Christiane Lacote d'Estribat pour notre première partie avec elle. Je rappelle son livre « Passage par Nadja » publié par les éditions Galilée en 2015. C'était la Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinot, Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Nasser Moussaoui. Demain, vous avez rendez-vous avec Manu Farine pour la Compagnie des poètes. Elle s'entretiendra avec le romancier et essayiste néerlandais Cees Nootboom. Mais on se retrouve, nous, lundi prochain avec le premier numéro d'une semaine qui sera consacrée à l'écrivaine américaine Edith Wharton. Tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous feuilletons tout pirote, à joie, à pleine main ou à pleine voix. C'est en édition poche chez Gallimard. À la page 188, nous avons respiré l'air départemental. Il court le long des voies ferrées du passé. Les talus répandaient leurs fleurs sur le ballast. Un bout de rail luisait comme un regard blessé. Nous avons visité le Cagibi désert du lampiste. Vu les gares désaffectées, les barrières levées et les carreaux cassés, le train fantôme est loin, bien plus loin que l'hiver. Avec Jean-Claude Pirotte, ça je n'avais pas prévenu, mais ça pleure son passé. Et puis bah quand même, ça nous laisse espérer le retour des petites voies ferrées. Si vous voulez disparaître, commencez donc par apparaître. Ce sera l'occasion ou jamais de vous faire une belle jambe. Quand vous aurez la belle jambe, envoyez-moi les côtelettes. À défaut de jambon à l'os, le temps s'en va. Là, le temps bosse. Pour s'assurer que chacun tombe identiquement médaillé au fond du fond des catacombes, la vie est belle, elle est ma tombe. Je dirai que je suis tombé. C'est un hommage à Roland Dubillard, fait par Jean-Claude Pirotte. On a chanté pour des prunes, l'élégie s'est démodée, on nous a pipé les dés, on nous a piqué la lune. Il suffisait pourtant de nous laisser à nos manilles, à nos pôles, nos anis, nos rêves de panadeux, à nos grolles, à nos vies furtives, au coin du feu, à nos uniformes bleus que le monde nous envie, au cordon de notre bourse, aux ombres de nos clochers dont la flèche se penchait. Aux chuchotis de la source, à nos trognes de vieux ours, nos venelles, nos airs de ne compter que jusqu'à deux dans les sacs de notre course. Ça, c'est du pur Pirotte. J'aurais passé ma vie dans les nuages, ma mère me morigéna toujours. J'écrivais des dizains page après page où l'horreur se combinait à l'amour. Où la mort enfin montrait son visage, j'espérais du ciel une pluie d'images, mais de la terre je n'attendais rien. Je ne pleurais pas aux enterrements, à l'église je priais comme un chien, fou de rage, avide de mauvais sang. Et puis alors ce qu'il y a de formidable avec Jean-Claude Pirotte, c'est qu'on peut lui confier la transition, il en fait un poème. « À part causer de la lune, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire ?» Guetter un cri d'oiseau nocturne, pauvre miracle à ta mesure. Ton regard mort creuse la nuit, mais le miracle ne survient jamais. À l'heure où je m'ennuie de tant de monde possible, offre-moi des escarpins d'or comme tu me l'avais promis. Je m'en irai d'ici, ton sort sera celui que tu espères, changé en vieil hibou. Tu pourras enfin t'adresser à ta vieille lune. Postiche en toute intimité. Signé, ton ami aux yeux clos.
Merci Jacques Bonnafé, vous nous avez lu toute cette semaine des textes de Jean-Claude Pirotte.